Alors, bah comme d'hab, si vous avez des questions, c'est le moment.
Re. Y a-t-il des questions?
Bah déjà, bravo pour tous tes efforts, Voro, et pour
Merci.
cette présentation.
Ouais,
C'est que le
merci.
début, parce qu'il y a encore 7 livres qui m'attendent.
Alors, direct, tu vois, je vais en profiter, je vois qu'il y en a qui. Ah, bah, Twiz a une question.
Non, non, mais vas-y, Melk, vas-y.
Eh ben, c'était pour revenir sur la petite remarque que je t'avais faite au tout début, où je t'invitais à essayer de pas trop lire ton texte. Parce que du coup, j'ai eu l'impression que bah, toi-même, ça t'a un peu desservi au tout début. J'ai eu l'impression que ça t'a presque démotivé, que tu trouvais ça plate. Et c'est dommage
Non,
parce que
parce
du
qu'en
coup.
fait, Machiavel, j'ai préparé, j'avais révisé, tu vois, j'avais répété deux, trois fois l'entièreté du script, sauf que là, j'ai pas répété en fait. Et
Ouais.
quand tu répètes pas, tu te prends les pépins en pleine poire pendant que les gens t'écoutent, du coup, c'est dur psychologiquement, tu te dis, ouais, ça va être n'importe quoi là. Enfin,
Ouais.
c'est même toi, t'as du mal à comprendre et tout, enfin, c'est une catastrophe.
Je
Mais je l'ai fait
comprends.
quand même, mais voilà.
Mais c'était cool, t'as bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que on sentait que tu lisais plus un résumé qui, toi, t'a été utile pour synthétiser tout ce que t'as compris. Ce que je veux dire, c'est que l'étape résumée que t'as fait, pour moi, elle est super importante pour faire une fiche de lecture. Mais surtout pour toi, en fait. Parce que ça vient syncrétiser et résumer tout ce que tu as compris du bouquin. Mais après, quand tu nous en parles,
Ouais.
à mon avis, il vaut mieux que tu t'en serves juste de feuille de route et pas que tu t'accroches mot pour mot à ce que tu as écrit, pour que tu nous l'expliques, en fait. Pour que tu sortes de la lecture ou de la description et que que t'entres dans l'explication, comme si tu nous prenais par la main et littéralement que tu nous dises, bon, alors je vais vous expliquer ceci, l'auteur parle de cela, etc., etc. À titre d'exemple, il y a plusieurs fois où, par exemple, j'avais noté, à un moment, tu nous parlais de l'anecdote de la secte collective, là.
Ouais, Johnstown en Guyane.
Et ben, tu commençais à lire.
910 morts sur 1000 personnes dans la secte.
Ouais.
910 morts.
Tu commençais
80% de suicide.
à nous lire le résumé. Et à un moment, tu as fait une accroche du genre, alors celle-là, elle m'a marqué, elle m'a choqué parce que, et tu as commencé à expliquer pourquoi. Et ben, rien que ces phrases d'accroche où toi, tu interviens pour dire, alors ça, je vous l'expliquais parce que ça m'a interpellé, etc. Ça crée beaucoup plus d'attention plutôt que si tu enchaînes juste tes titres et des paragraphes qui font que des fois on n'arrive pas à sauter direct du coq à l'âne.
Ouais,
De
je
la même
comprends.
façon, à un moment, tu parlais, ça c'était révélateur aussi, tu parlais de l'auteur qui a un ami qui revend des voitures
Ouais,
et tu commences
celle-là
à
aussi,
lire
elle est sympa.
carrément. Mais du coup, tu commences en lisant la phrase en disant Mon ami vendait des voitures et tu te reprends parce que tu te rends compte que c'est l'auteur qui parlait, qui disait moi. Et du
Oh, mais
coup,
j'ai peur de dire de la merde en fait si je pars en roue libre et que je vous prends par la main.
Bah non, parce que là, du coup, tu t'es repris et t'as dit, alors là, en fait, et pour nous situer, t'as dit, là, l'auteur nous explique qu'il avait un ami, et du coup, tu nous mets dans la situation, tu nous expliques le truc. Et ça, typiquement, c'est pareil, la sauce prend beaucoup mieux, je pense.
Ouais,
Donc.
je sais, mais si je m'amuse à partir en roue libre, j'ai pas envie de dire n'importe quoi après, tu vois.
À mon avis, tu ferais mieux de miser là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que typiquement, à chaque fois que
Ouais.
des gens sont intervenus pour te poser des questions, eh ben, tu répondais toi avec ce que tu avais compris du bouquin. Quand Twist a posé une question, à un moment, ce que tu répondais, c'était beaucoup plus attractif que la lecture que tu nous faisais.
Je
Parce
comprends,
que.
mais est-ce que j'ai bien compris? C'est ça le piège. Parce que des fois tu crois que tu comprends, mais en fait t'as pas compris. Et du coup tu dis
Voilà.
n'importe quoi.
Vu
Et
le
c'est pas
résumé
bon.
béton que tu as fait, à mon avis, tu as bien compris. Puis tu vois, à chaque fois qu'on t'a posé des
Ouais,
questions,
certes.
c'était clair et tout. Donc voilà,
Et puis.
pour tes prochaines lectures, à mon avis, ton
Bah
travail
écoute,
de côté, il est super important.
j'essaierai, promis, le troisième que je ferai, j'essaierai de partir en mode plus charismatique et plus
En mode,
éloquent,
n'aie pas
mais.
peur de nous prendre par la main, en fait, tu vois. Alors ça, je vais vous expliquer ceci. L'auteur, il pense pas parce que, machin. À mon avis, il y aura pas de souci.
Ok, ça marche. J'essaierai la prochaine fois.
C'est d'autant plus intéressant qu'on a ton ressenti par rapport au bouquin. Je veux dire, si on a besoin d'une vision totalement froide du livre, on
Ouais.
le lit. Là, le fait d'avoir, bah, ça permet d'avoir ton prisme de lecture. Et ça rend le truc d'autant plus intéressant.
Alors honnêtement, j'ai détesté lire ce livre. Pourquoi? Parce que la présentation est horrible. Il y a aucun espace. Comment vous dire? C'est des pavés de lignes. Il n'y a aucun espace. Tu vois le délire?
Je vois.
C'est très indigeste à lire comme livre. Le mec parle beaucoup pour pas grand-chose des fois. Il va prendre, par exemple, il va te prendre une page et demie pour te dire simplement un tout petit détail. Mais en l'occurrence, ce que j'ai apprécié par contre, contrairement, c'est qu'il donne énormément d'exemples concrets. Tu vois, des faits historiques, des choses comme ça c'est cool. Ce que j'ai pas aimé, c'est la présentation du texte qui est nulle. C'est un pavé de phrases indigestes. Et enfin, il a tendance à un peu trop parler. Mais après, en soi, les exemples qu'il donne sont cool. Les sept principes, la cohérence, rareté, preuve sociale, c'est très bon. C'est vraiment intéressant. Par contre, la présentation du bouquin et la façon dont il l'a rédigé, j'ai pas du tout aimé.
Voilà. C'est pareil pour le coup des exemples. Ils sont parlants, mais des fois, comme tu les enchaînes, on est un peu perdu. Donc, n'hésite pas à dire « Eh ben, vous voyez, cet exemple, il illustre très bien le titre du chapitre qui est « La persuasion, parce que ceci, parce que cela. » Ça nous remet à chaque fois dans le bain. Donc, n'aie pas peur vraiment de nous prendre par la main, en fait. À mon avis, ça sera
gagné. Ah oui, et j'expliquerai aussi la médiocre qualité de mon exposé, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, comme ça me saoulait à mort de lire le livre et que c'est 300 pages, dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, je notais la phrase uniquement et je passais à autre chose. Ce qui fait que dans mon résumé textuel, je fais mal les transitions, parce que comme j'ai été barbé du livre, il y avait beaucoup d'informations qui étaient en trop, je passe directement d'un concept à un autre sans transition. C'est pour ça que c'est...
Yes.
Des fois, il y a des phases un peu comme tu dis, là, Melk, où je pense pas à préparer ce qui va suivre. Parce que j'enchaîne, quoi, juste les idées bêtement.
Pas de souci. Il y avait une question de Groot. Faut-il manipuler pour comprendre la manipulation? Faut-il la subir?
Non, t'as deux manières, c'est comme tout. Soit tu l'utilises pour manipuler, ou soit tu l'utilises pour t'en défendre. Moi, pourquoi je lis ce livre? C'est simplement pour me défendre des manipulateurs. C'est pas pour en devenir un. Mais tu peux en devenir un, hein. C'est comme n'importe quoi. Hein. Tu peux avoir un pistolet pour instaurer la paix dans une société, comme tu peux avoir un pistolet pour faire des braquages et devenir un gangster. C'est comme tout, quoi. La façon dont tu utilises la chose.
Et il y avait Olifax qui voulait intervenir.
Il y avait Twist qui avait une question aussi, non? Il est déjà intervenu?
Yes.
Pardon.
En fait, de ce que j'ai vu ton résumé, le bouquin, ça a l'air d'être un enchaînement d'exemples.
C'est ça.
Est-ce que c'est pas un peu risqué de prendre un exemple et d'en faire une généralité en soi?
C'est pas du tout pour faire une généralité, c'est juste prendre plein d'exemples pour faire plein d'exemples. Après, tu généralises comme bon te semble. Tu peux généraliser, tu peux pas généraliser, tu fais ce que tu veux avec les exemples. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, donc en fait, c'est une énumération d'outils qui...
C'est ça, c'est un freestyle d'exemple. Après, c'est...
Application, quoi.
Exactement.
Je te prends juste la parole pour donner un petit détail par rapport à ce point-là. En fait, donc, dans ce livre, ce qui est très bien, c'est que tout est référencé et cité, c'est-à-dire que chaque exemple, alors c'est des exemples d'études, sont dans des études que tu peux retrouver. Et ensuite, les exemples, à part des exemples un petit peu spécifiques, sont des groupes de tests, donc des expériences souvent psychosociales ou alors ce genre de choses. Donc c'est plus des études sociologiques que des exemples personnels. Les exemples sont souvent là pour un peu illustrer et après amener à l'étude qui a fait que, et après effectivement illustrer avec des chiffres.
Ok. Et du coup, le fait de connaître cet outil, est-ce que ça suffit à s'en prémunir? Ou est-ce que, parce que, enfin, j'imagine qu'il y en a qui sont un peu plus complexes que d'autres, mais du coup, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de contrer ce genre de pratique? Ou est-ce que c'est juste le fait d'être vigilant et critique envers les actions des autres, quoi? Ça résumé en disant, faut pas faire confiance aux gens, je trouve ça un peu triste, quoi.
Bah, malheureusement... De moins en moins, tu pourras faire confiance aux gens. Et en plus de ça, oui, il y a des... En fait, à chaque chapitre, il y a un sous-chapitre qui dit comment dire non, à chaque fois. Et ce que j'ai remarqué, ce qui te dégage de comment dire non, c'est simplement, il faut que tu dissocies, en fait, les émotions que tu vas avoir par rapport au vendeur ou à la personne qui va te manipuler. Il faut que tu te dises systématiquement que tu peux avoir affaire à un manipulateur et que tu... décode sa technique d'approche, que tu regardes au niveau du prix, par exemple, si ce qu'il te vend, il y a un moment donné dans le premier chapitre, il dit intéressez-vous bien au détail du produit plus qu'au prix. Parce que le prix peut être trompeur. Un pantalon que tu vas payer 200 euros, il faut plus t'intéresser aux matériaux du pantalon qu'à la marque ou qu'au prix en soi. Parce que, enfin, ça me rappelle, il le dit dans le livre, je ne l'ai pas marqué dans mon résumé, mais il dit, par exemple, à un moment donné, tu as dans un magasin de chaussures ou de je ne sais quoi, ils n'arrivaient pas à écouler un stock, ils n'arrivaient pas à écouler telle marque de telle chaussure, et il y a un vendeur, il s'est dit, écoute, ça va paraître un peu stupide, mais on va juste augmenter le prix de la chaussure. Et bizarrement, la chaussure est mieux partie. Pourquoi ? Parce que le client a l'impression de faire un achat de qualité. Vu que c'est un prix élevé, il se dit « je paye cher, donc c'est de la qualité ». Pas du tout. Des fois, c'est pas du tout le cas. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Bah, c'est pareil. Donc, pour répondre à ta question, comment dire non ? Prendre conscience de la preuve sociale, prendre conscience que la rareté, ça peut être jouer uniquement sur ton désir et non pas sur la réelle utilité que tu vas en avoir de ton achat ou de la qualité de l'achat. Moi, le principe de rejet-retrait, j'ai trouvé ça incroyable de mettre ça en lumière. Le simple fait d'avoir quelque chose de choquant et d'ensuite venir sur un prix raisonnable légèrement plus élevé que tes revendications, ça te permet de faire une petite marge, mais ça fonctionne, tu vois, juste, tu rejettes, tu fais un... Je sais pas, je te vends mon ordinateur à 700, à non, 800 euros, sachant que tu as besoin d'un ordinateur. Là, dans un mois, tu as besoin d'un PC. Je te dis, bah écoute, je vais te le vendre 800 alors qu'il en vaut, je sais pas, 450. 800, ça va te choquer. Tu vas te dire, ah non, c'est trop cher, désolé, 800, je peux pas. Ensuite, je te cuisine pendant 2-3 jours. Et 3 jours plus tard, je te dis, bah écoute, je te fais une fleur, je te le fais à 500. Alors que les prétentions initiales étaient de 450. Ce genre de choses, tu vois. Donc pourtant, en fait, le moyen de te prémunir, c'est d'avoir l'arsenal du manipulateur et d'essayer de nommer la technique. Et tu sais que, enfin, moi, j'ai eu un exemple concret. J'ai un vendeur de free chez moi qui est passé. C'était un bon vendeur parce qu'il avait un débit de parole qui était assez impressionnant et bien cohérent. Il me dit, bonjour, là, je me présente, je suis vendeur de free, je vous vends internet, un abonnement complet. Avec un prix vraiment intéressant. Et je le regarde, je fais, attendez, mais elle est où la douille, du coup ? Donc, il continue son speech. Il dit, voilà, donc prix très attractif. Vous pourrez résilier, genre, un an plus tard. Par contre, après un an, une fois que tu t'es inscrit, genre, un an plus tard, ça passe à des forfaits qui sont plus chers, du style 30 euros par mois. Mais au début, pendant un an, tu vas payer vraiment, genre, 2 euros, 3 euros par mois. Et là, je le regarde, je fais, attendez... Du coup, la douille, c'est quoi ? Vous jouez sur le fait que le client devient amnésique au bout d'un an et qu'il va oublier de se rétracter, de rétracter son abonnement. Il m'a regardé, il m'a fait un gros smile, il m'a fait exactement. Et après, il a voulu me recruter. Il m'a dit, ça vous intéresse d'être vendeur, tout ça, machin. Tu vois ?
Ouais. Bien, ouais.
Il joue sur l'amnésie du client, parce que pendant un an, il s'en passe des choses chez quelqu'un. Et du coup, tu vas oublier de résilier ton abonnement que tu payes que 2 euros ou 3 euros par mois. Mais après, 30 euros... janvier, février, mars, et le temps que tu vas... Tu vois, parce que la démarche, elle prend du temps, faut que tu trouves le temps, etc., etc. Voilà. Là, je t'ai donné un exemple concret qui m'est arrivé à moi, mais il y en a plein des techniques.
Je crois que c'était à moi d'intervenir.
Si tu veux, vas-y.
Du coup, bah merci Voro pour ton petit exposé, parce que c'était pas loin d'une heure et demie quand même.
C'est ça.
Le texte n'est pas facile, avec beaucoup d'infos.
Ouais.
Donc merci. Après, moi, c'est un sujet où il y a beaucoup d'informations d'un seul coup. Ça fait beaucoup à assimiler. J'espère que c'était simple pour tout le monde. Moi, j'avoue que il y a des sujets, je pense que j'ai oublié 5 minutes après les avoir entendus.
Normal.
Je voudrais préciser quelques petites choses. Ce livre, il a été publié en 1984 avec des données et parfois des études qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale. Okay. Et ça, c'est entendu avec des exemples, par exemple, la sensation dans le ventre pour savoir si vous vous faites avoir ou pas. Mm-hmm. C'est tout simplement pour dire que les sens sociaux ont évolué depuis. Donc, il faut pas prendre tout ce qui a été dans ce livre pour argent comptant.
Ok.
Pareillement, sur les pourcentages, pour ceux qui ont été surtout à l'audio, à différence de toi, Voro, il y a des pourcentages qui sont donnés, qui sont assez fréquents. Et donc, c'est jamais binaire, c'est jamais du 100%. Les chiffres sont rarement hauts et les différences se font de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Mais il y a rarement des explosions. Et pour finir, moi, je ne sais pas pour vous, vous croisez peut-être de temps en temps, vous savez, les jeunes là, pour les associations humanitaires qui essayent de vous faire raquer 10-15 balles par mois. Bah, la prochaine fois que vous en croisez, juste prenez le temps de les écouter et de voir les arguments qu'ils vont utiliser, l'appel à l'émotion, le pied dans la porte et tout, et tout, et tout. Pour ça, une fois que vous avez lu ce livre, c'est un délice. Et je finirai par un truc, et je l'ai déjà posté un peu plus haut. Vous avez une chaîne YouTube qui avait repris justement ce livre et qui en avait fait des vidéos au cas par cas. C'est Horizon Ghoul, qui est une excellente chaîne que certains suivent ici parmi nous, je pense. Donc n'hésitez pas à la suivre, celle-ci, elle est très très bien. Et justement, ils remettent dans le contexte par rapport aux études qui ont pu sortir depuis qu'en fait ce livre a été écrit pour certains cas. Par exemple, la réactance et ainsi de suite. C'est plus complet que le livre parce que tout simplement, il y a de nouvelles expériences sociales qui sont faites dans certaines disciplines qui apportent de nouvelles données.
Sympa.
Et encore une fois, merci Voro.
Il y a Ashkamen qui voulait dire un truc. Non, Ashkamen. Bon, en attendant que tu reviennes, Ashkamen, il y avait une question de Groot qui dit « Ce n'est pas du point de vue personnel qui me pose problème, c'est un point de vue de masse. Moi, individu seul, apprends à me couvrir de la manipulation, mais si je vis dans une société où tout le monde manipule tout le monde, et 1% de la population se fait manipuler, ça devient plus rentable d'être manipulateur. Pourquoi dans ce cas, moi, individu seul, devrais-je juste me couvrir et pas l'utiliser ?
Ah mais tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. C'est juste... ça rajoutera du noir dans ce monde qui est déjà... Mais si tu veux devenir manipulateur, hein, vas-y, hein, pas de problème. Hein. Fais ce que tu veux de ta vie. C'est juste... je sais pas quoi te dire, en fait. C'est juste triste, mais tranquille. Tu vois, par exemple, de dire à quelqu'un, alors que t'es pas d'accord avec ce qu'il dit, tu fais ce que tu veux, il explique à un moment donné le fait que moins la pression est ressentie, plus l'influence est grande. Si tu mets une trop grande pression à quelqu'un, ton pouvoir d'influence sera mauvais. Alors que si tu mets très peu de pression, mais que t'arrives à rentrer à l'intérieur de son esprit, l'effet que tu auras sur la personne sera beaucoup plus grand. C'est aussi, j'ai bien kiffé. Un autre truc que j'ai adoré du livre... c'est l'explication du bizutage, qui est un processus qui est inhérent à l'espèce humaine. Il y a eu beaucoup d'états, d'organismes qui ont essayé d'aller à l'encontre du bizutage universitaire, et tous leurs efforts ont été réduits à néant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un réflexe humain. Ça crée, en fait, instinctivement, ça crée une cohésion de groupe. Parce que plus tu souffres à l'intérieur d'un groupe, plus il y a une cohésion. Donc en fait, tu ne peux pas enlever ce réflexe du bizutage chez l'homme. C'est beaucoup trop... ça permet de créer des liens super forts entre les gens. C'est pour ça que c'est aussi important. C'est un peu c'est dégueulasse, ouais, c'est pas ouf. Mais l'influence que ça a sur la cohésion de groupe est beaucoup trop important pour le supprimer. Voilà. Ça m'avait beaucoup marqué, par contre, et vachement intéressé.
Donc concrètement, les étudiants, bien qu'ils se fassent bizuter, donc c'est une forme de torture quelque part,
ouais.
Le fait qu'on leur empêche, qu'on leur dise c'est interdit maintenant, ils se rebellaient contre cette interdiction.
Bah, c'est même pas, enfin, ils peuvent faire genre, mais en fait, à l'intérieur du groupe, il va quand même se passer des bizutages. Même si officiellement c'est interdit, officieusement, dans la vie étudiante, quand ils vont sortir, quand ils vont se retrouver entre eux, il y aura un bizutage. C'est obligatoire. Même dans les, il n'y a pas que dans les, dans le monde occidental, il n'y a pas que dans la culture occidentale. Tu regardes des tribus africaines qui ont des espèces de rites pour les adolescents, les jeunes adolescents pour devenir des hommes de la tribu. C'est pareil, ça passe par des, je sais pas, tu te mets des braises sur le ventre, ou tu vois, tu te fais des trucs de fou, les initiations chamaniques. Tu vas rester deux mois dans le désert, tu vas devoir survivre, tu vas devoir dépecer une hyène ou des trucs comme ça, tu vois, c'est la même chose. Dans toutes les sociétés humaines, il y a ce principe de bizutage. Chez les occidentaux, dans les tribus un peu plus reculées de la société moderne, etc., il y a toujours ce principe de bizutage et de souffrance. De torture, ouais, on peut dire torture. Mais qui a un but, le but étant de souder la tribu, de souder les gens entre eux. De se dire, ouais, tu te rappelles, on a fait ça, ah, c'était un truc de fou, là, on a failli crever, etc. Ça permet aux gens de rester unis. Alors que si c'est trop bisounours et c'est trop doux, il y aura trop d'individualisme, il n'y aura pas assez de... Même pas assez d'histoires à raconter, ce sera trop, tu vois, ce sera trop monotone, trop pas assez... Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Ouais, j'essaie d'y réfléchir. Moi, je trouve ça un peu triste, mais...
C'est vrai qu'il est sciatique.
Bah, c'est triste. Ce sont des faits.
Donc, moi, je prends la parole. Donc, du coup, moi, je voulais revenir sur un truc que disait... C'était...
Je t'amène, mets-toi plus près du micro, t'es super loin.
Voilà, c'est mieux.
Ouais.
Du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à intervenir. Ok, du coup, moi je vais revenir un petit peu sur ce que disait Olifax. Effectivement, faut remettre en contexte le livre parce qu'il est un petit peu daté. Il est aussi, il y a le côté États-Unis, le côté à l'époque, il y avait une vision un petit peu différente de la société. Donc voilà, faut remettre en contexte et réadapter tout ça. Parce qu'on voit aux États-Unis, par exemple, la vision du crédit n'est pas la même que la vision du crédit en Europe, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une première chose. Et après, donc par rapport au ce que tu disais donc sur les butages, moi je nuancerai un petit peu, c'est pas obligatoire. Ça favorise dans certains cas effectivement une sorte de cohésion de groupe. Il y a le fait aussi de pouvoir tous ensemble taper sur quelqu'un, sur un plus faible du groupe, ça fait. Une sorte de lien, effectivement, mais il n'y a pas que le fait que le bêtisage soit obligatoire. Il y a d'autres études qui montrent que le fait d'être tous méchants contre une personne fait aussi que ça relie et ça lie les gens. Après, il y a aussi le syndrome de Stockholm, donc de celui qui est bizuté. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc je serais un peu plus nuancé, effectivement, il y a sûrement une partie de ce que tu viens de dire, mais il y a d'autres parties aussi.
Ah, certainement, oui, on peut prendre le sujet à différents points de vue qui sont multiples et variés, mais en tout cas, c'est un angle d'approche que je propose. Puis après, il y a aussi des réalités biologiques assez primitives dans le règne humain, c'est que bien qu'on ait des aides sociales depuis quelques dizaines d'années, on a quand même des centaines de milliers d'évolutions derrière nous. Et généralement, dans nos sociétés primitives, quand un individu était trop faible et qu'il allait devenir un poids pour le groupe, il y avait souvent un abandon de la personne, voire même de le... Je peux venir chez vous, vous mettre des baffes le matin, le soir.
On peut réagir comme on veut ou est-ce qu'il y a un ordre de parole?
Ben, je crois que c'était à toi, de toute façon, il y avait Mistake, mais elle a enlevé son intervention. N'hésite pas, Mistake, donc a priori, c'est à toi, Charles.
Ok. Je comprends pas le lien que vous faites entre le sujet de la conversation du livre blanc, qui est, d'après ce que j'ai compris, la manipulation, et le bizutage. Parce que comme je l'ai dit à l'écrit, moi j'ai subi des bizutages. Et franchement, bah sur le moment, c'est traumatisant, mais je ne vais pas vous le cacher. Mais après coup, aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'est plutôt bénéfique, justement, parce que tu vis un truc dur dans ta vie qui, justement, permet de te, de te pousser dans tes retranchements. Et voilà. Par contre, juste ne pas confondre le bizutage et le fait de, du concept social de ce qu'on appelle communément la tête de Turc, ce qui n'a rien à voir. Hein. J'ai l'impression, de, en vous écoutant, que vous confondez bizutage et tête de Turc. Par contre, pour en revenir à la manipulation, vous parlez de manipulation interpersonnelle ou vous parlez de manipulation de masse ?
Alors, c'est plus interpersonnel et il n'y a pas que la manipulation dans le livre qui est évoqué, y a, c'est influence et manipulation. Donc,
Le livre de Cialdini, c'est ça ?
C'est ça, Robert Cialdini. Donc il y a effectivement de la manipulation, mais il y a aussi des techniques d'influence.
Bah, en tant que commercial, je peux vous dire que Cialdini, c'est un livre de chevet pour moi, hein, personnellement.
C'est ça, voilà. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas du tout.
Et c'est très efficace, hein, d'ailleurs. Hein.
Ouais, ouais, je m'en doute.
Et tout le monde dit, ouais, c'est des méthodes qui ont 60 ans d'âge, etc. Mais vous seriez étonné à quel point ça fonctionne encore.
Bah, on n'est pas tous à la pointe de l'ère numérique et moderne.
Non, mais c'est les relations humaines. De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, il en finit.
Non, en fait... Pourquoi on a évoqué les bizutages et ensuite la tête de Turc ? C'est simplement parce que c'est la vision que m'a apporté ce livre sur le bizutage qui m'a fait changer d'avis en fin de compte. Je n'arrivais pas à le voir je n'arrivais pas à voir le bizutage d'une manière positive, et à la lumière des explications de Cialdini, j'ai pu avoir une explication un peu plus nuancée et plus intéressante. Tu vois ? C'est tout.
Moi, j'ai été bizuté pour la première fois à l'âge de 7 ans. Donc, j'ai été jusqu'à l'âge de probablement quelque chose comme 13 ou 14 ans, parce que j'ai commencé de nombreuses activités différentes. Et donc, du coup, bah, tu vois, là, quand tu as 10 ans et que tu fais une saoule entre scouts, alors que tu as des scouts qui ont 14 ou 15 ans et qui te dégomment et qui n'en ont rien à branler, et que derrière, tu fais des campements de nuit et où tu prends des douches froides, on te réveille à minuit et tout, tu vois, c'est du bizutage d'une certaine manière. Mais franchement, ou même dans les clubs de voile, partout, il y a du bizutage, tu vois. Mais en fait, en soi, il y a le bizutage sadique et il y a le bizutage où on va te malmener pour te faire aller au-delà des limites que tu pensais que tu sois capable d'atteindre, tu vois. Mm-hmm. Je vois pas... le sadisme, c'est une chose. Le bizutage, c'en est une autre. Et je trouve que c'est triste qu'on fasse l'amalgame.
Pour rebondir vite fait, en plus, dans les bons bizutages, entre guillemets, il y a un côté où, comme vous dites, c'est pas finalement tant contre la personne ou personnel, il y a un côté où on est tous passés par là, tu fais partie de la team maintenant, en fait.
Exactement. Fédère.
Et pour résumer le bizutage, peu importe la manière, en fait, c'est juste souffrir pour créer du lien dans le groupe. Ça peut se résumer à ça.
Non, vas-y, je quand même.
Non, moi, je vais changer de sujet, donc vas-y, réponds.
Ah, alors juste, je lisais la réponse de Olifax sur la tête de Turc et le bizutage. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, pourquoi ? Parce que le bizutage ne crée pas de division entre les gens qui exercent le bizutage ou qui subissent le bizutage. Alors que la tête de Turc, parmi les gens même qui font subir ce que la tête de Turc subit, tu as des gens qui le font à contre-cœur. Dans le bizutage, c'est pas pareil, parce que ce n'est pas dirigé vers une personne du groupe sur laquelle 20 ou 30 personnes ou 100 personnes vont s'acharner. Le bizutage, tout le monde y passe. Que tu sois fort, grand ou peu importe, en fait, tu as 10 mecs qui vont te sauter dessus et puis ils vont te défoncer, en fait, tu vois. Et donc du coup, bah, le bizutage, il y a une sorte d'égalitarisme par rapport à l'épreuve que tu vas supporter. La tête de Turc, il n'y a pas d'égalitarisme. C'est à 50 personnes qui vont se mettre contre une personne, ou 5 ou 10 personnes qui vont se mettre contre une personne.
Ouais, donc, c'est ce que j'ai dit, c'est pas la même chose, c'est simplement que les deux servent à souder un groupe, c'est tout. L'un pour tout le monde, l'autre au détriment d'une autre personne.
Et pour répondre,
mais on est d'accord, c'est pas la même chose, hein.
Groot a l'air insurgé, elle dit « Mais à quel moment faire du mal aux autres est un bienfait ?» C'est pas aussi manichéen que ça. C'est tu peux te faire du mal pour faire évoluer le groupe et pour te faire progresser toi. Moi, par exemple, je suis en train de souffrir. Là, quand je fais une heure et demie de conférence et que dans ma tête, je me dis, mais c'est nul à chier ce que tu es en train de faire, mais je vais continuer. Je me fais du mal, mais c'est pour me faire évoluer dans ma compréhension des choses. Pareil pour un militaire qui va se faire une séance de footing avec des tractions et qui va en suer comme, qui va suer comme pas possible, qui va se faire insulter par ses collègues. Mais ce sera pas méchant, ce sera pas juste du mal pour faire du mal, ce sera pour progresser, évoluer dans un domaine dans lequel tu as envie d'être bon. Et tu vas immanquablement passer par de la souffrance. Après, effectivement, tu as les mecs qui te font souffrir et qui te font même pas évoluer. Là, c'est grave. Là, tu peux le signaler. Mais si c'est un bizutage qui a pour but... De te faire évoluer, de te faire souffrir, mais pour te faire évoluer, il n'y a aucun mal à ça. Et c'est même... Enfin, moi, j'ai vu personne dans ma vie qui évoluait avec le sourire, et c'est génial, et j'adore, et...
Mais, Voro, si je puis me permettre, c'est un peu une leçon de vie, c'est un peu comme ton daron... Bon, parfois, peut-être que ton daron exagère ou qu'il te dit des trucs qu'il ne devrait pas te dire, mais parfois, il te fait des leçons, tu vois, de vie. Littéralement. Ah, et ces leçons de vie, bah, moi j'en ai pris un certain nombre, tu vois, et il y en a une par exemple dont je me souviens toute ma vie, que mon père m'a donné à 7 ans, quand j'arrivais pas à pédaler sur un vélo. Il m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit: mon fils, dans la vie, quand on veut, on peut. Les gens qui se trouvent des excuses, c'est pas toi, c'est pas mon fils. Donc t'as pas d'excuses, si tu le veux, tu le peux. Donc t'as pas d'excuses. Et comme je veux que tu fasses ça, comme t'es mon fils, tu vas le faire. C'est brutal, je vous l'accorde. Mais après coup, bon, bah, au final, à 31 ans, bah, je me rends compte qu'au final, il n'est pas si tort que ça, le daron. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais du coup, Ashkarmen, en plus, il y a 3 personnes qui sont pas d'accord avec moi, du coup, dans ce que j'ai dit. J'écoute, hein.
C'est pas tant pas d'accord, là, c'est qu'ils veulent juste intervenir. D'ailleurs, il y avait Mistake. Vas-y, Mistake.
Oui, en fait, c'était juste, je voulais apporter la notion de rituel de passage à l'âge adulte, parce qu'en fait, alors je sais pas comment c'est dans les autres pays francophones, mais en France, le service militaire a été annulé et supprimé, pardon, et en fait, ça servait de rituel de passage à l'âge adulte. Et dans la dépression juvénile, en fait. Alors j'avais lu une étude justement sur la dépression juvénile qui avait été faite par je sais plus quel ministère à ce propos, et ils expliquaient que le fait qu'il n'y ait plus de rituel de passage à l'âge adulte, c'était un peu, ça a contribué au fait que les ados fassent des dépressions. Et ils faisaient un lien avec le bizutage, comme quoi du coup ça remplaçait le rituel de passage à l'âge adulte du service militaire pour les garçons, et que bah, du coup, ça avait cette. Ils se posaient la question justement d'interdire ou pas le bizutage par rapport au fait que bah, justement ça servait de rituel de passage à l'âge adulte et qu'au niveau, sanitaire, enfin, au niveau des dépressions et tout ça, ça pouvait avoir un effet bénéfique.
Ouais, pas mal.
J'ai pas entendu qui se pose la question de ça.
Je sais plus quel ministère avait fait cette enquête-là.
Le ministère de la jeunesse et des sports, probablement.
Ouais, je pense, ouais.
Il y a d'autres personnes qui avaient l'air de vouloir parler du sujet. Après, HKMN, tu voulais en changer, et l'autre, c'était toujours.
C'était toujours pour le bizutage. Je ne suis pas très à l'aise avec Steak. Il y a aussi cette idée comme quoi le service militaire, c'était un rite de passage à l'âge adulte qui permettait de renforcer d'effacer certaines inégalités qu'on pouvait trouver dans le civil en mettant n'importe quelle condition et n'importe quelle culture au sein d'une même unité. Donc ça, c'était pour réagir à tes propos. Et moi, j'ai eu une expérience avec deux amis. On faisait un voyage en camion et on est allé à Coimbra. Coimbra, c'est là où il y a la plus ancienne université du Portugal. Donc, c'est une petite ville qui doit être à 100 km au-dessus de Lisbonne, où tu as deux universités qui vont s'opposer. Tu as la plus ancienne, qui est plutôt tradition catholique, avec des uniformes dans ce style.
Ça coupe ou c'est chez moi ?
Je suis juste en train d'uploader une photo. Donc en gros, tu vas devoir acheter un uniforme assez cher avec la cape et une canne. Et sur un soir, on venait juste d'arriver en ville, on ne connaissait pas ces traditions-là. Et on a vu une centaine d'étudiants avec une trentaine de premières années qui se faisaient prendre des coups de canne par les deuxièmes et les troisièmes années. Et c'était leur type de bizutage dans cette université. Et ça nous a quand même relativement choqués. On n'avait jamais vu de trucs comme ça en France ou dans les universités où on avait pu passer. Et parallèlement à ça, t'as tout un autre axe universitaire qui coexiste dans cette ville, avec des auberges espagnoles remplies d'étudiants qui vont et qui viennent, et des traditions plutôt de gauche, pour dire que là, dans cette université, c'est plutôt des traditions qu'on va dire de droite traditionnelle. Mais le fait vraiment de voir une espèce de bastonnade en pleine place publique comme ça nous a quand même choqués. Et c'est un habitant à côté, un petit jeune, qui nous a expliqué qu'il ne faisait pas partie de cette université, mais plutôt de notre tendance, qui nous a expliqué que voilà, c'est ce qui arrive aux premières années pour leur semaine d'intronisation.
Et toi, t'en as pensé quoi?
Bah écoute, moi et mes potes, ça nous a choqués. On se dit, bon bah, à quel point est-ce qu'on aurait envie de subir ça? En même temps, c'est une école, enfin c'est une université qui est censée être privée. Donc quand tu rentres dedans, tu dois être averti, tu dois savoir à quoi tu t'attends. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'était extrêmement impressionnant. Et pour nous, ça s'apparentait à la violence gratuite ou de la tradition qui a dégénéré à un tel point. On voit pas vraiment ce que ça avait de formateur de se prendre dans ce cadre-là des coups de canne.
Mais tu deviens quoi aussi après cette université? T'as quel genre de métier?
Eh bien, je te dirais des métiers plutôt aisés, mais bon,
Voilà, c'est ça le
quand bien
problème.
même.
Je suis prêt à parier que c'est le droit, moi. Mais...
Quand bien même, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu en France ou à travers les villes que j'ai traversées. Pareil
Oui, mais
pour mes
parce
potes.
que t'es pas allé dans des écoles privées, je pense.
Alors, en effet.
Parce que après, si c'est pour gagner 6 000, 7 000 par mois, te prendre quelques petits coups de canne pendant un ou deux jours.
C'est même pas une question d'argent, c'est. Pourquoi vous
Non,
ramenez
mais.
tout à l'argent, les gens de gauche? C'est terrible quand même, hein.
Non, mais si tu t'as l'argent, t'as le prestige, et si ça te plaît en plus de ça, enfin, après,
Non, mais
t'es.
le prestige en France, notamment, n'est pas lié à l'argent. Enfin, faut arrêter.
Ça dépend.
Traite pas les gens d'ici de gens de gauche, Charles, voyons.
Ouais,
pardon, excuse-moi, Melk, mais.
Tu sais même pas de chute quel bord en plus, en fait. C'est ça le truc.
Ah, mais c'est pas toi qui disais pour quelqu'un comme moi de gauche, voir ça me paraissait être un traitement brutal ou je sais pas trop
Pas
quoi.
du tout.
Ah,
Non.
pardon, excuse-moi. Pardon, j'ai mal compris la voix.
Alors, il y avait des réactions.
Vilain.
Il y a Olifax qui n'était pas d'accord, si vous voulez réagir, et après Charles qui voulait intervenir. Olifax, t'avais un truc à dire ou? Parce que sinon,
Non,
après.
c'est à l'outre-poutre de
Ah,
parler.
mais c'est quoi ce remix CAF? Le prestige de prendre des coups de CAF, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Hein.
Attends, c'est à l'outre-poutre de parler, Melk.
Il est déjà intervenu,
Ah
si je ne
bon?
me trompe pas.
Oui, je n'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter, sinon que sur le moment, bah, ça nous a choqués. Et ouais, Ashkamen, tu voulais continuer aussi, il me semble.
Il voulait changer de sujet, lui, je crois.
Ouais, moi je voulais revenir un petit peu sur le livre. Effectivement, c'est influence et manipulation. Ça nous expose les faits. Effectivement, le lecteur est après. Si on analyse le livre, le lecteur a conscience devrait pouvoir être conscient des moments où ils sont manipulés ou des moments où ils manipulent. Car en fait, en réalité, ces méthodes de manipulation, on les a déjà tous utilisées, soit pour demander des choses à nos parents ou à notre famille, ou enfin, de manière inconsciente. Après, pour s'en prémunir, ça effectivement c'est compliqué. Donc il faut déjà arriver à le détecter. Par exemple, une personne te dit vous êtes libre de. Là, tu dis, ah oui, peut-être que là, il y a effectivement un biais de manipulation. Il faut toujours avoir ce recul, prendre du temps pour pouvoir répondre. Et ça, c'est difficile parce qu'actuellement, on demande toujours de la bonne réponse immédiate. Et donc, du coup, il faut pouvoir se prendre du recul pour pouvoir dire, là, dans quoi je m'engage? Et c'est en fait l'une des plus grandes parties du livre, le chapitre 3, je crois, c'est l'engagement. En fait, c'est l'engrenage de l'engagement qui est assez important. De se dire quand est-ce que je dois me désengager et quand est-ce que je dois m'engager. Pour moi, c'est ça le moment clé pour se dire est-ce que je me fais manipuler ou pas.
Et alors, pour revenir à ton exemple de vous êtes
Moi, j'aimerais bien
libre.
répondre à ça.
Vas-y.
D'autant que je crois que c'est mon tour de parole. Et
Ok.
du coup, t'as fini HKMN ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors, en fait, il se trouve que j'ai le bouquin à la maison parce que je l'ai lu genre 5 fois, tu vois. Et je l'ai refeuilleté en t'écoutant parler, tu vois. Et en l'ouvrant au hasard, mais vraiment genre au hasard, je suis tombé sur le chapitre 5, la sympathie, le gentil voleur, tu vois. Et ça m'a fait vraiment penser au commercial, tu vois. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur le sujet que vous êtes parti sur Cialdini et influence et manipulation. Mais en fait, tout ça, c'est des méthodes tactiques d'influence ou de manipulation. Mais en réalité, si je puis me permettre, hein, en tant que commercial qui a 10 ans de carrière et qui littéralement a vendu des centaines de milliers d'euros de prestations et qui a vendu, donc quand tu vends, d'une certaine manière, tu manipules la personne qui est face à toi pour faire en sorte qu'elle te choisisse toi ou ton entreprise plutôt que quelqu'un d'autre. Enfin, fondamentalement, c'est de la manipulation. Après, la manipulation, elle peut être positive ou négative. Enfin, je veux dire, pour moi, je n'apporte aucun jugement moral sur l'enjeu de la manipulation. Les gens qui disent que...
Ok. Et par rapport au chapitre 5, si tu peux revenir dessus.
Donc, le chapitre 5, c'est la sympathie. Le gentil voleur. Bah, par exemple, avant de le lire, moi, je suis sympathique de nature, tu vois. Et je me suis souvent posé la question... Comment ça se faisait que j'arrivais à vendre alors que je n'étais pas le meilleur technicien de la vente que je connaisse? Je connais des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et en fait, j'ai compris, bah, en lisant ce chapitre-là, qu'en fait, sans même le savoir, j'utilisais ces méthodes de manipulation. Elles étaient inconscientes. Et il y a plein d'autres... et du coup, j'ai appris plein d'autres méthodes de manipulation, l'urgence... le fait de faire croire à la personne qu'elle gagne quelque chose alors qu'en fait, elle va perdre derrière et tout. Et en fait, c'est des choses que tu vois au quotidien d'un point de vue commercial. Mais pour moi, la manipulation, cette manipulation-là, ce n'est rien à côté de la strutturfing ou de la manipulation de masse ou d'enjeux qui sont beaucoup plus graves et beaucoup plus stratégiques et politiques à grande échelle. Mais ce n'est que mon avis.
Ah oui, non, enfin, moi, je discutais vraiment sur le livre parce que c'était le sujet du livre blanc de ce soir.
Je vais pas tarder à aller couper les bottes pour le podcast. Voro, tu voulais intervenir, le petit mot de la fin pour tout ça?
Le mot de la fin.
Pour les auditeurs.
Non, j'ai pas de mot de la fin.
C'est à Voro, du coup, on le lit le livre ou pas?
Franchement, je vous le déconseille, il est ultra relou à lire, mais...
y a des non, mots... qui a dit ça?
Bah, celui-même qui a fait la soirée.
Ah bah, je suis pas d'accord avec toi, Voro. Influence et manipulation de Cialdini, tu le déconseilles?
En fait, il y a des bons exemples à l'intérieur, mais à lire, je l'ai trouvé horrible, en fait.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais pour des gens qui ne sont pas initiés, c'est quand même très intéressant.
Oui, mais après, prenez garde, parce qu'il est repoussant, la manière dont c'est écrit.
Ah oui.
Bah, c'est présenté, c'est...
Non, mais c'est la traduction. Je pense que si tu le lis en anglais, ça va beaucoup mieux.
C'est possible. Donc voilà, le mot de la fin, ce serait ça. C'est un livre intéressant, mais attention parce qu'il est repoussant.
Ça me fait comme conclusion. Quel livre déconseillez-vous aux jeunes générations?
Non, mais je suis sûr qu'en anglais, il est mieux. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le en anglais. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que le traducteur, il ne s'est pas foulé la mise. Il est allé sur Google Trad et ensuite, derrière, quand Google Trad a traduit, il a juste rectifié les erreurs de Google Trad. Mais vraiment, ça ne vole pas plus haut que ça. Donc personnellement, je le recommanderais de l'acheter en anglais.
Yes. Eh ben, merci en tout cas, Voro. Super instructif.
De rien.
Merci, Voro. Merci beaucoup, Voro.